tout de suite.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous dans cette édition du lundi 21 mars 2022. Au sommaire, au moins 18 soldats burkinabés tués dimanche dans une embuscade et l'explosion d'un engin artisanal. Au Mali, décès en détention de l'ex-premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga. En Centrafrique, le dialogue de réconciliation nationale s'ouvre en l'absence de l'opposition. La commission judiciaire du Sénat américain a commencé les audiences de confirmation de la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême. L'Ukraine rejette l'ultimatum russe sur Mariupol. Le président Joe Biden se rend vendredi à Varsovie en Pologne. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. 18 soldats burkinabés ont été tués dimanche lors d'une embuscade de djihadistes présumés dans l'est du pays. 8 autres ont été blessés. C'est ce qu'indique un bilan des forces armées publié ce lundi. Le point avec Abdelrahman Dia.
Dans un communiqué, l'armée précise qu'une unité militaire engagée dans une opération de sécurisation dans la région de l'Est a été accrochée à une vingtaine de kilomètres à l'est de Niatabouani hier dimanche. Selon l'agence d'information du Burkina, une quinzaine de jeunes ont été enlevés par des individus armés à l'issue d'une attaque vendredi dans la même zone. Il s'agit de la sixième attaque en 10 jours dans le nord et l'est du pays. Ces attaques ont fait au total 23 civils et 25 gendarmes et soldats tués. Le 24 janvier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avait renversé le président Rochemark Christian Kabore, souvent accusé d'avoir été inefficace face à la violence djihadiste. Après une relative accalmie, le nouveau chef de l'État, qui a fait de la lutte anti-djihadiste une priorité, fait face à son tour à des attaques meurtrières.
L'ancien premier ministre du Mali, Soumaïlou Boubey Maïga, est mort lundi à Bamako. Il était en détention dans une affaire de fraude présumée. Les précisions de Mohamed Danioko.
Âgé de 68 ans, l'ancien premier ministre du Mali, Soumaïlou Boubey Maïga, est décédé ce lundi à Bamako, aux environs de 11h, une information confirmée par plusieurs proches de la famille. Incarcéré le 26 août 2021, après avoir été inculpé pour faux et usage de faux et favoritisme dans le cadre d'une enquête sur l'achat d'équipements militaires et sur l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense. Suite à son état de santé, il avait été évacué vers une clinique le 15 décembre dernier. Sa famille, dans plusieurs communiqués, dont le dernier date du 2 mars dernier, avait demandé aux autorités de la transition de l'évacuer vers l'étranger car selon elle, son pronostic vital, au dire des médecins, était engagé. Chef du service de renseignement, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense et Premier ministre de 2017 à 2019, l'homme a toujours été au cœur du système. Il part, laissant derrière lui l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, son parti politique. Un parti qui s'apprête à jouer le premier rôle lors des prochaines échéances électorales. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
En Centrafrique, ouverture du dialogue de réconciliation nationale sans les groupes armés qui ne sont pas conviés, ni l'opposition qui boycotte ce dialogue républicain promis par le président Faustin Archange Touadéra après la présidentielle de 2020. Le point avec Nathalie Barge.
Le président Faustin Archange Touadéra a ouvert le dialogue en présence de centaines de participants de la majorité de la société civile et de personnalités lors d'une cérémonie dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous sommes tous mobilisés autour des idéaux de paix. Il n'y a pas de sujet tabou, a-t-il déclaré, encadré par deux Russes encagoulés, membres de sa garde rapprochée. À l'issue de son discours, tout le monde a rapidement quitté la salle. Les travaux doivent débuter demain en commission. Hier, la plupart des partis de l'opposition ont annoncé qu'ils refusaient de participer car les rebelles n'y sont pas conviés et la question post-électorale ne sera pas abordée. Monsieur Touadéra avait promis un dialogue de réconciliation au lendemain de sa réélection fin décembre 2020, alors que de nombreux électeurs n'avaient pas pu voter à cause de l'insécurité. Lors de la présidentielle, Bangui était menacé par une offensive de groupes armés, mais depuis, ils ont été repoussés de plusieurs villes et territoires avec l'appui de centaines de paramilitaires russes.
En RDC, dans la province de l'Ituri, Médecins sans frontières a annoncé l'arrêt de ses opérations dans deux villages, 4 mois après une attaque contre ses membres. Selon MSF, cette décision intervient face à l'absence prolongée de garanties de sécurité de la part de différents acteurs qui s'affrontent dans la région. Les vélos-taxis, mototaxis et tuk-tuk, moyens de transport populaires accusés d'être responsables de la majorité des accidents mortels, sont interdits depuis lundi dans la capitale économique du Burundi, Bujumbura, a annoncé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Plus de 600 000 personnes utilisent chaque jour ces moyens de transport. La commission anticorruption zambienne a annoncé lundi l'arrestation de l'ex-ministre de la Justice, Given Lubinda, pour avoir détourné 539 000 dollars. C'est dans une série de poursuites engagées contre des cadres du précédent exécutif, battus lors des élections d'août 2021. Given Lubinda est actuellement président par intérim du Front patriotique, PF, le principal parti d'opposition en Zambie. Le 9e Forum mondial de l'eau a débuté lundi à Dakar avec pour thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Un rapport de l'UNESCO a mis en exergue le potentiel des eaux souterraines susceptibles de générer des bénéfices sociaux et économiques à condition qu'elles soient gérées de façon durable. Selon ce rapport, les eaux souterraines représentent près de 99% des réserves d'eau douce sur Terre et fournissent la moitié du volume d'eau prélevé dans le monde, selon l'UNESCO.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la commission judiciaire du Sénat a entamé aujourd'hui les audiences de confirmation de la juge Caitlin G. Brown Jackson. Un moment historique car la juge Jackson deviendrait ainsi la première femme noire à siéger à la Cour suprême. Claire Morejibour.
Juge fédérale depuis 9 ans, Caitlin G. Brown Jackson sera entendue par la commission judiciaire du Sénat jusqu'à jeudi, avant un vote en plénière, probablement début avril. Après une déclaration liminaire, la juge Jackson devra répondre aux questions des 11 démocrates et 11 républicains. Elle a comparu devant cette même commission l'année dernière. Le président Joe Biden l'avait choisie pour combler un poste vacant à la Cour d'appel fédérale de Washington. Si elle obtient le feu vert des sénateurs, elle va siéger à partir de la rentrée prochaine au sein de la Cour suprême qui aura 3 autres femmes et un magistrat africain-américain. D'ailleurs, le juge conservateur Clarence Thomas, 73 ans, a été hospitalisé vendredi pour une infection. L'arrivée de Caitlin G. Brown Jackson pour remplacer le magistrat libéral Stephen Breyer ne va pas changer les équilibres au temple de la justice américaine. Les conservateurs vont garder une majorité de 6 juges sur 9.
Au 26e jour de la guerre, l'Ukraine rejette l'ultimatum russe de capituler à Mariupol. Kiev et d'autres villes ont été bombardées la nuit dernière. Le président américain Joe Biden se rend vendredi à Varsovie, en Pologne. Le point avec Nanit Sylvani Talani.
Un bombardement a fait au moins 8 morts la nuit dernière à Kiev, selon le parquet général. Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, annonce un nouveau couvre-feu à partir de ce soir. Dans la région de Donetsk, 3 personnes ont été tuées et 5 autres blessées dans des bombardements russes. La ville de Mariupol, assiégée, résiste toujours et rejette l'ultimatum russe de capituler. L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville, affirme la vice-première ministre Irina Vererchuk. Kiev exhorte les habitants de la ville de Novotselitsia de se mettre à l'abri après une fuite d'ammoniac dans une usine chimique voisine. Pour la première fois depuis le début du conflit, environ la moitié du personnel de la centrale nucléaire de Tchernobyl a pu être remplacé hier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle à une négociation directe avec Vladimir Poutine. La Turquie assure que la Russie et l'Ukraine sont proches d'un accord. Le président américain Joe Biden se rend vendredi en Pologne pour discuter de la réponse internationale à l'invasion. Il s'entretient ce lundi avec plusieurs dirigeants européens.
Le président américain Joe Biden a appelé lundi les entreprises à se protéger d'éventuelles attaques informatiques menées par la Russie en réponse aux sanctions occidentales imposées à Moscou pour son offensive en Ukraine. Les États-Unis ont pour la première fois lundi déclaré officiellement que la minorité musulmane des Rohingyas avait été victime d'un génocide perpétré par l'armée birmane en 2016 et 2017. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nanit Silvani Talani.
Le groupe italien Eni reprend ses exportations de pétrole brut et de gaz dans le sud du Nigeria où elles ont été suspendues après l'explosion d'un oléoduc. Les réparations du pipeline endommagé sont terminées. L'explosion, survenue à Nembe dans l'état de Bayelsa, a provoqué lundi dernier un déversement de pétrole et entraîné une réduction de 25 000 barils par jour des exportations du terminal de Brass. C'est la deuxième explosion sur les installations d'Eni en quelques jours. Le 28 février, un incident pareil a entraîné une baisse de production de 5 000 barils par jour dans la station d'écoulement d'Obama. Le Maroc va aider financièrement les transporteurs routiers frappés par la flambée des prix de l'essence à la pompe. Le gouvernement a choisi d'intervenir afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, indique le ministre du Transport, Mohamed Abdeljalil. Les modalités et les montants de l'aide devront être fixés dans un délai de 2 semaines. Plusieurs syndicats du transport routier ont observé une grève de 5 jours la semaine dernière pour exiger le plafonnement du tarif des carburants et des marges des distributeurs d'hydrocarbures.
Et nous passons directement à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Les compétitions interclubs étaient à leur 5e journée sur le continent le week-end écoulé. De nouveau qualifiés pour les quarts de finale en Ligue des Champions. Dans le groupe A, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns sont qualifiés après leur succès 4-2 au Soudan devant Al Hilal. Dans la poule B, le Raja de Casablanca et l'Entente de Sétif verront aussi les quarts. Après s'être imposé respectivement 2-0 sur la pelouse des Sud-Africains d'Amazulu et 3-2 face aux Guinéens de Oroya, l'Espérance de Tunis vainqueur 3-0 chez les Botswanais de Galaxy et le CR Belouizdad, dominateur de l'étoile du Sahel 2-0, empoche les 2 billets du groupe C. Le Wydad Casablanca et le Petro de Luanda ont assuré leur qualification lors de la 4e journée. L'unique ticket récent sera attribué dans 15 jours à l'issue du match Al-Hilal du Caire. Al-Hilal du Soudan. 5e journée également en Coupe CAF. 5 équipes ont validé leur billet pour les quarts. Les Libyens d'Al Ittihad qui ont rejoint Pyramide FC d'Égypte après l'avoir battu 1-0 dans le groupe A. Les Sud-Africains d'Orlando Pirates ont fait de même dans la poule B après leur victoire 2-0 sur la pelouse de la JS Saoura. Dans la poule C, les Égyptiens d'Al Masry vainqueurs 2-0 du Coton Sport de Garoua et le TP Mazembe malgré son nul 2-2 face à l'AS Otowo d'Oyo sont qualifiés pour les quarts. Dans le groupe D, bonne opération pour les Ivoiriens de l'ASEC d'Abidjan, vainqueurs 3-0 face aux Tanzaniens de Simba. Les Mimos sont en tête du groupe avec 9 points, 2 longueurs d'avance sur Simba et les Marocains de la Renaissance sportive Berkane, accrochés à Niamey par l'US Gendarmerie Nationale 2-2. Athlétisme avec les mondiaux en salle à Belgrade, les Éthiopiens règnent dans les courses de demi-fond. Chez les dames, en 3000 mètres, Lemlem Aïlou a remporté le titre en 8 minutes 41 secondes. Sur les 1500 mètres, c'est Goudaf Tesgué qui s'impose en 3 minutes 57 secondes. Au niveau des hommes, Samuel Tefira remporte les 1500 mètres en 3 minutes 32 secondes. Et Selumon Bariga, les 3000 mètres avec un temps de 7 minutes 41 secondes. Basketball, ici aux États-Unis, le duel entre les deux Camerounais, Pascal Siakam des Toronto Raptors et Joel Embiid des Philadelphia Sixers a tourné à l'avantage de Siakam, vainqueur 93-88. Embiid a inscrit 21 points et récupéré 13 rebonds, tandis que Pascal Siakam est auteur de 26 points et 10 rebonds. Boston a battu Denver 124-104. Phoenix a conforté sa domination à Sacramento, où Devin Booker a marqué 31 points pour paver le chemin d'un succès, 127 à 124 après prolongation. Memphis a écrasé Houston 122-98. Les Warriors se sont inclinés face à San Antonio 110-108. La Nouvelle-Orléans s'est imposée à Atlanta 117-112.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kizado, retour avec vous, place au dossier du jour. Au Burkina Faso, 18 soldats ont été tués dimanche lors de deux incidents distincts dans l'est du pays. 13 sont morts dans une embuscade et 5 lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé. Ces incidents confirment un regain de violence avec une soixantaine de victimes civiles et militaires en 10 jours dans le nord et l'est du pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
13 militaires ont été tués et 8 autres blessés dans une embuscade à Natiabouani, dans l'est du pays. Selon l'armée, une unité engagée dans une opération de sécurisation dans la région de l'est a été attaquée et dans sa riposte a réussi à se dégager de l'embuscade en neutralisant plusieurs des assaillants. Omar Ouedraogo, un Ouagalais.
Ça me fait vraiment mal de voir à chaque fois le pays endeuillé. Ce que nous demandons aux nouvelles autorités, c'est de tout faire, de mettre tout en œuvre pour rétablir la sécurité au pays. C'est ce que la population demande. Pour restaurer la sécurité qu'ils ont pris le pouvoir. Voilà, donc on attend beaucoup d'eux.
Benjamin Nikema, un Burkinabé.
Et à chaque fois qu'il y a un bouscard ou il y a un piège qu'on a mis, c'est que bon. Et les terroristes savaient en avance que non, les militaires allaient passer par là.
Il y a une semaine, des ressortissants de l'Est ont attiré l'attention des autorités sur la situation sécuritaire dans la région. Bassirou Bayou est le responsable du collectif des ressortissants de la province de la Kompianga, dans l'Est du Burkina.
Une semaine après notre conférence de presse où nous avons interpellé l'autorité par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire de la province de Kompianga, le cas malheureux qui s'est produit hier avec malheureusement la mort de 13 FDS ne vient que confirmer ce que nous avons dit lors de cette conférence de presse. Toutes les voies qui mènent à la province de Kompianga sont aujourd'hui inaccessibles du fait des terroristes à travers les mines qu'ils ont enterrées sur le sol. Donc ce qui s'est passé hier pour nous, c'est vraiment un incident qui ne devrait pas arriver, d'autant plus que les autorités sont au courant de ce qui se passe déjà dans cette partie du Burkina.
5 autres soldats sont morts lors du passage de leur véhicule sur un engin explosif improvisé. Il y a tout juste une semaine, 13 gendarmes ont été tués dans une embuscade près de Taparko, dans le nord du pays. Ces incidents confirment un regain de violence avec une soixantaine de victimes civiles et militaires en 10 jours dans le nord et l'est du pays. Les attaques se sont intensifiées et le gouvernement de transition, qui a fait de la lutte anti-djihadiste une de ses priorités, rassure que de vastes opérations sont actuellement en cours. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En Guinée, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a annoncé des assises nationales à partir de ce lundi 22 mars, selon un communiqué du gouvernement. Au début de ce mois, des dizaines de partis du pays ont menacé dans une déclaration d'appeler à manifester si la junte au pouvoir persiste à les tenir à l'écart. Ces partis réclament un cadre permanent de dialogue pour discuter de l'échéance du retour des civils au pouvoir. Yakuba Ouedraogo a joint à Paris en France Sidya Touré, ancien Premier ministre de Guinée et président de l'Union des Forces Républicaines. Il revient sur son expulsion de son domicile fin février par la junte sur la politique dans son pays.
Moi, on est venu me dire que mon domicile appartenait au patrimoine bâti et un jour, j'ai reçu donc un document du patrimoine bâti me demandant de quitter mon domicile dans les 10 jours à venir. Il se trouve malheureusement pour eux que ce domicile, je l'ai acquis en 1996, pas le domicile, c'est acheter un terrain nu en 1996 qu'on aurait même pu me donner en tant que Premier ministre, mais que j'ai acheté et j'ai versé l'argent au trésor, je l'ai reçu du trésor. On a signé un décret du président m'attribuant donc le lot une fois qu'on a payé, comme cela se fait pour tous les Guinéens qui ont un terrain au-dessus de 1500 mètres carrés. Quand c'est en dessous, c'est le ministre qui paye. Et après, j'ai pris un architecte qui m'a fait un plan, j'ai fait les factures, j'ai eu un permis de construire, j'ai construit ma maison. Donc vraiment, je ne suis pas dans quelque cas que ce soit qui puisse permettre permettre que je détienne un bien de l'État.
Des dizaines de partis, hein, parmi lesquels le vôtre, dans une déclaration, ont appelé à manifester si la junte au pouvoir persiste à les tenir à l'écart et à retarder le retour des civils à la tête de la Guinée. Pourquoi maintenant, après 6 mois de prise du pouvoir par la junte?
Parce que tout simplement, le moment est venu. C'est-à-dire que cela fait 6 mois qu'on attend quelque chose qui puisse nous indiquer quelle va être la durée de cette transition, qui puisse nous indiquer quels sont les membres du CNRD et qui puisse nous dire de quelle manière on pourrait sortir de cette situation qui, de toute façon, comme toute transition, a une fin. Donc nous avons posé le problème d'avoir un dialogue national entre le CNRD, le gouvernement, les partis politiques et la société civile, en présence d'un médiateur choisi par la CEDEAO et des partenaires techniques au développement, c'est ce qui se fait partout. Comme ça, nous discutons et on se met d'accord et on affiche au moins quelque chose. Mais là, depuis 6 mois, on n'avait rien. Donc nous avons proposé que ce dialogue puisse se tenir. Le problème de la manifestation, c'est juste que c'est permis par la Constitution.
Vous avez réclamé un cadre permanent de dialogue. La junte annonce des assises nationales pour le 22 mars. Qu'est-ce que vous en pensez?
Nous sommes dans le dialogue national. Moi, je ne connais pas les assises. Je connais probablement ce pourquoi nous avons été reçus, les différentes coalitions. C'est de mettre en place cette structure de dialogue national, la structure sur laquelle nous sommes en train de travailler.
N'est-ce pas l'absence d'un calendrier clair sur un éventuel retour des civils au pouvoir après des élections qui suscite la crainte du côté de l'opposition?
Mais l'objectif de toute transition, c'est d'aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Donc je ne vois pas ce que ça a d'extraordinaire de le dire.
La CEDEAO dit ne pas vouloir de longue transition. Pensez-vous que, avec cette grogne à l'interne et la pression de la CEDEAO, la junte puisse céder?
La CEDEAO demande une transition courte. Elle l'a fait partout. Quand ça n'a pas été le cas au Mali, ils ont imposé des sanctions. Nous, on veut inviter des sanctions à notre pays. Nous disons, mettons-nous ensemble, définissons quelque chose que nous allons tous pouvoir défendre ensemble.
Sidya Touré, ancien Premier ministre de Guinée et président de l'Union des Forces Républicaines. Le 9e Forum mondial de l'eau s'est ouvert ce matin à Diamadjo, au Sénégal, autour du thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Plusieurs chefs d'État, de gouvernement et d'institutions internationales y participent. Les interventions du président sénégalais Macky Sall et du président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Fauchon, ont attiré l'attention des participants. Compte rendu de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
L'eau est au commencement et à la fin de la vie. C'est par cette vieille sagesse que le président Macky Sall a voulu montrer l'importance de l'eau avant de rappeler les dangers qui guettent le monde si le liquide précieux n'est pas sauvegardé.
2 personnes sur 5 dans le monde vivent dans des régions où l'eau est rare. Les femmes et les filles passent plus de 200 millions d'heures par jour à chercher de l'eau. 2 milliards 100 millions de personnes sont contraintes de consommer de l'eau polluée. Et 80% des eaux sont rejetées dans la nature sans aucun traitement, mettant en péril la santé et la vie de 4,5 milliards d'individus. 90% des 1000 catastrophes naturelles les plus dévastatrices depuis 1990 sont liées à l'eau. Tout laisse croire que si rien n'est fait, la situation ira de mal en pis.
Une situation encore plus dramatique en Afrique où les populations vivent dans des conditions extrêmes malgré l'abondance de l'eau dans le continent. C'est le triste tableau dressé par Loïc Fauchon, président du Conseil mondial de l'eau.
L'eau en danger, c'est une situation à la fois paradoxale et inacceptable. Et voilà bien là un des challenges du continent africain. D'eau, l'Afrique est pourvue, mais trop d'Africains en sont dépourvus. Situation inacceptable, l'angoisse de centaines de millions de femmes et d'enfants qui chaque matin sont en quête d'une eau lointaine et trop rare avec au bout du chemin quelques litres seulement pour l'hygiène et la nourriture. Alors, chers amis, la question vient d'elle-même. Faut-il tourner la tête et regarder ailleurs? Évidemment, non. Faut-il accepter cela et se résigner? Évidemment, non.
Pour le président Macky Sall, ce constat et ces interrogations appellent les grandes puissances à davantage s'impliquer et à davantage impliquer l'Afrique.
Je crois que le moment est venu pour qu'une instance comme le G20 prête attention aux problématiques liées à l'eau, à l'image de ce que fait la Banque mondiale et les autres institutions multinationales depuis des décennies. Compte tenu des enjeux globaux qui s'attachent à ces problématiques et à bien d'autres préoccupations mondiales, mesdames et messieurs, il me semble nécessaire que le G20 s'élargisse et élargisse sa composition. L'Union africaine pourrait ainsi en devenir membre.
En attendant une éventuelle réponse du G20, les chefs d'État et d'institutions internationales présents au 9e Forum mondial de l'eau à Dakar se sont accordés sur la nécessité d'agir pour une meilleure gestion et une meilleure accessibilité du liquide précieux à travers le monde. Serina Abagay Adjam Niadjo pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'accès à l'eau potable en Afrique dans un contexte de changement climatique. Le 9e Forum mondial de l'eau se tient du 21 au 26 mars à Dakar sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement ». Alors qu'en Amérique du Nord, un habitant a accès en moyenne à 250 litres par jour, dans le Sahel, le ratio est d'une personne pour moins de 10 litres. Comment résoudre la question de l'accès à l'eau potable en Afrique? Comment éviter qu'il ne soit source de conflits entre pays ou entre communautés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
La Russie poursuit son attaque contre les villes ukrainiennes alors que son invasion entre dans sa quatrième semaine. L'ONU affirmait que 10 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine. Le président américain Joe Biden se rend en Europe pour discuter de la crise. Arash Arabasadi de la VOA fait le point. Le récit signé Ginny Kapumbu-Villa.
Le ministère russe de la Défense a publié des images de son avion de chasse Su-35 en action, alors qu'un porte-parole du ministère affirme que la Russie a lancé un autre missile hypersonique de longue portée sur ce qu'elle décrit comme une cible militaire ukrainienne. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type en peu de jours. Cela fait suite à une semaine durant laquelle des responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes ont détruit un théâtre abritant des centaines de personnes, dont des enfants. Un représentant du ministère russe des Affaires étrangères a qualifié l'accusation de mensonge. Les médecins de Mariupol se battent depuis des semaines pour sauver des vies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le blocus russe de Mariupol va entrer dans l'histoire de la responsabilité des crimes de guerre. Dimanche, le sénateur démocrate Dick Durbin a déclaré à l'émission This Week sur la chaîne ABC que les États-Unis vont continuer de fournir un soutien ferme à l'Ukraine tout en évitant une troisième guerre mondiale.
Les États-Unis, par l'intermédiaire de notre président et de l'alliance de l'OTAN, sont totalement engagés dans cet effort pour arrêter Poutine. Les actes désespérés qu'il pose maintenant en tuant des civils innocents et des enfants, rien que pour cela, il aura, pour toujours, son nom taché de sang.
Dimanche, le sénateur républicain John Barrasso, membre de la Commission des Affaires étrangères, a déclaré sur ABC que l'administration Biden a mis du temps pour réagir.
Le président a dû être poussé et amené là où il est aujourd'hui. C'est le Congrès qui a imposé les sanctions, qui ont entraîné l'interdiction du pétrole russe, qui ont apporté les armes et tout ce gros plan d'aide de 13 milliards de dollars pour lequel j'ai voté il y a une semaine ou deux. Jusqu'à présent, l'administration n'a débloqué qu'un milliard.
Des manifestations de soutien aux Ukrainiens se poursuivent à travers le monde pour dénoncer l'invasion russe, même dans les rues de Moscou où les autorités pourchassent les manifestants. Peut-être personne n'est plus célèbre que Marina Ovsyannikova, rédactrice en chef à Channel One, la télévision nationale russe, a fait éruption dans une émission en direct avec une pancarte indiquant « pas de guerre » en anglais et en russe, disant « ne croyez pas à la propagande car ils vous mentent ». Dimanche, par l'intermédiaire d'un interprète, elle a pris la parole dans l'émission This Week sur la chaîne ABC.
Je pourrais montrer au reste du monde que les Russes sont contre la guerre et je pourrais montrer au peuple russe que ce n'est que de la propagande, exposer cette propagande pour ce qu'elle est et inciter peut-être certaines personnes à s'élever contre la guerre. Et j'espère que ma performance, d'une certaine manière, va aider les gens à changer d'avis.
Son avenir reste incertain suite à une loi russe criminalisant les descriptions de la guerre de manière négative. L'infraction est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.